Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 octobre, évidemment. J'étais perdue dans les dates, évidemment, le 20 octobre aujourd'hui. Au menu de cette émission, on va parler de théâtre pour les adolescents, avec tout un parcours proposé par le Théâtre de Laval. Avec justement, ça commence à partir du mois de novembre, et vous verrez en quoi ce parcours peut vous permettre aussi peut-être de vous projeter dans d'autres métiers, ou en tout cas de découvrir les coulisses d'une saison théâtrale. On va parler aussi d'escalade avec la Coupe d'Europe organisée ce week-end à l'Espace Mayenne à Laval. Et je reçois Bernard Chailloux pour justement nous présenter cette Coupe d'Europe et tout ce que vous pourrez voir avec cette discipline assez spectaculaire. On va en parler tout à l'heure. Et puis on poursuit évidemment, nous sommes mercredi avec la chronique du FC Que Choisir qui va nous parler aujourd'hui, on est pile dans l'actualité, des hausses du prix de l'énergie, donc de l'essence, du gaz et de l'électricité. Et puis on poursuit évidemment aussi notre feuilleton autour du spectacle La Conférence des Oiseaux avec le témoignage aujourd'hui de Félicité qui va nous expliquer à quel point finalement elle apprécie en tout cas de venir rejoindre les autres comédiens toutes les semaines pour répéter pour le spectacle. Mais tout de suite on fait un petit point sur l'actualité. Il n'y aura pas de fermeture de l'hôpital de Mayenne, assure Olivier Véran devant l'Assemblée nationale hier. Le ministre de la Santé a été interrogé sur le sujet par les députés Yannick Favennec et Guillaume Garot. Chacun d'eux a redit son opposition au projet de l'Agence régionale de santé qui souhaitait mutualiser certains services de l'hôpital de Mayenne avec ceux de Laval. Selon Olivier Véran, la question de la démographie médicale sera réglée d'ici quelques années grâce à la suppression du numerus clausus. La Mayenne repasse en vert. Le taux d'incidence est passé sous le seuil d'alerte avec 42,6 cas pour 100 000 habitants, selon les chiffres de l'ARS, avec quelques disparités. Pourtant, dans le pays de Cran, ce taux grimpe à 243. 34 personnes sont hospitalisées, dont 4 en réanimation. Mais si les chiffres se maintiennent, voire même diminuent, les écoliers pourront enlever leur masque en classe après les vacances de la Toussaint. Une cinquantaine de manifestants soutiennent les AESH à Laval, les accompagnants des élèves en situation de handicap. Les manifestants étaient réunis hier à Laval, en fin de matinée, place du Jet d'eau, pour réclamer une revalorisation de leur salaire. Leurs contrats sont en moyenne de 24 heures par semaine pour un salaire mensuel de 750 euros. Et puis en football, un tirage au sort plutôt clément pour le Stade Lavallois qui affrontera lors du 6e tour de Coupe de France l'équipe de Vertoux en National 3. Ce sera le week-end du 30 et 31 octobre. C'est la seule équipe mayonnaise masculine encore en lice. Et chez les féminines, le Stade Lavallois accueillera Sainte-Luce lors du 5e tour de la Coupe de France. Découvrir les coulisses du théâtre, la création d'un spectacle ou encore exprimer son avis de spectateur, autant de choses que vont pouvoir faire les ados impliqués dans le nouveau projet mené par le Théâtre de Laval. Une aventure proposée dans le cadre de Quartier en scène qui choisit pour ce nouveau cycle de 3 ans de s'intéresser non pas à un quartier mais à un public, les 12-16 ans. Premier atelier prévu le 17 novembre, les explications d'Emmanuel Breton, médiatrice culturelle au Théâtre de Laval.
Quartier en scène, en fait, c'est un projet que nous, on appelle hors les murs, c'est-à-dire qu'on se déplace, on va à la rencontre des publics, donc on va aller sur leur lieu à eux, qui sont par exemple les pôles ados du service jeunesse de la ville de Laval, et on va aller à la rencontre ce qu'ils s'imaginent comme lieu être le théâtre, c'est-à-dire qu'est-ce qui se représente pour eux, est-ce que c'est des choses qui peuvent les intéresser, est-ce qu'ils peuvent s'y sentir bien, donc on va déjà apprendre à se connaître et puis ensuite les amener tout au long de l'année par des ateliers, par des visites du théâtre, par des rencontres avec des artistes, à tout un parcours qui va faire qu'au fur et à mesure, ils vont découvrir un petit peu ce qu'est le spectacle vivant. Il ne faut absolument pas avoir une pratique théâtrale. Il faut juste être curieux. Donc, une fois par mois, on se retrouve. On se retrouve autour d'un spectacle. On se retrouve autour d'un atelier. On se retrouve autour d'une visite des coulisses du théâtre, par exemple. On se retrouve aussi autour d'un stage, puisqu'il y aura quand même un temps fort aux vacances de février, donc du 14 au 18 février, où là, on a fait appel à une compagnie qui est en création d'un prochain spectacle autour de l'argent facile. Donc ça peut aussi intéresser cette thématique les jeunes. Et donc là, avec ce temps fort là, donc on va se retrouver tout au long de l'année pour des ateliers vraiment très divers autour toujours du spectacle vivant. C'est pas un public que l'on voit souvent, c'est peut-être un public alors qui est venu avec son école, mais c'est vrai qu'on aimerait le sortir un petit peu de ce contexte-là. Et ça peut être aussi un moment de se dire, parce qu'on va travailler avec une compagnie qui travaille autour de beaucoup de l'objet, de la créativité, du détournement d'objets, donc c'est se dire, ah ouais, je suis capable de faire ça, je suis capable d'inventer ça, et puis en même temps, en effet, c'est découvrir une équipe, c'est-à-dire le technicien lumière là que j'ai croisé, ben, est-ce que je peux aller le rencontrer un petit peu plus longuement, et puis passer une journée, pourquoi pas avec lui, découvrir son métier. Donc c'est vrai que ça peut être très très dense. En tout cas, on va répondre à toutes les curiosités possibles.
Et si vous êtes intéressé, vous avez encore quelques semaines pour vous inscrire auprès du Théâtre de Laval au 02 43 49 86 30. Le cycle de rencontres se poursuit jusqu'au mois de juin à raison d'une fois par mois et c'est gratuit. On va parler non pas de théâtre mais d'escalade maintenant, juste après avoir écouté Feu Chatterton avec Monde Nouveau. Feu Chatterton où les ados qui participeront à ce parcours pourront découvrir les coulisses du montage de leur concert. Ce sera le 11 décembre prochain. On les écoute tout de suite.
Un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule et dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement. La glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Amour. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Feu Chatterton avec Monde Nouveau dans l'AJT du local sur l'autre radio. Feu Chatterton qui sera donc en concert au Théâtre de Laval le 11 décembre prochain. On passe de la musique à l'escalade. Et oui, puisque la Coupe d'Europe de la discipline est organisée ce week-end à l'Espace Mayenne, ce week-end et même d'ailleurs dès vendredi, à l'Espace Mayenne à Laval. Et donc forcément, les meilleurs grimpeurs de l'Europe J'allais dire du continent, oui, ça marche. Seront ça. Ici ce week-end. Et pour en parler, évidemment, je ne suis pas toute seule. Bernard Chailloux, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le conseiller technique du comité d'escalade de la Mayenne. J'imagine que c'est une compétition que vous attendiez depuis longtemps, cette fameuse Coupe d'Europe d'escalade de difficulté et de vitesse.
Alors c'est bien ça, ouais. Ce sera la première compétition internationale officielle au sein de l'espace Mayenne. Alors l'équipement qui était évidemment extrêmement attendu par beaucoup de sportifs et par nous, puisqu'il y a un mur international à l'intérieur de l'espace Mayenne et que sa vocation c'était bien d'accueillir des compétitions de haut niveau. Donc voilà, on est très contents de démarrer la série de compétitions espace Mayenne par une très belle Coupe d'Europe.
J'imagine que ça dépend aussi typiquement l'escalade des équipements en tout cas, puisque le comité a déjà organisé hein, par le passé d'autres compétitions de très haut niveau, on parle même de championnat du monde, mais là depuis quelques années c'était plus compliqué puisque vous attendiez justement ce mur. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui fait que ce mur-là il peut être accessible en tout cas ou pratiqué sur des compétitions de très haut niveau comme ce sera le cas ce week-end ?
Oui, alors effectivement, le comité d'escalade organise des compétitions depuis de nombreuses années. La fin des années 80, début 90, ça va remonter à très très loin pour la jeune génération, ils n'étaient pas là, mais on organisait de grosses compétitions avec des équipements qui étaient encore homologués et reconnus à l'international. Les standards ont changé, il faut maintenant des structures homologuées pour pouvoir le faire, et c'est la raison pour laquelle on a fait beaucoup de compétitions de bloc, parce que là, c'est un peu moins exigeant en termes d'infrastructure. Le bloc, c'est des petits murs hein, qui font 5,50 m de haut. Et du coup, ces compétitions-là, on pouvait les organiser. Donc, on s'est lancé dans le bloc à fond là, pendant 10-15 ans. Mais on n'avait pas l'infrastructure qui nous permettait de refaire des compétitions de difficulté sur ces grands murs hauts où on est encordé pour pouvoir assurer la sécurité. On n'avait plus les murs pour pouvoir le faire. Alors, avec l'arrivée du mur international au sein de l'espace Mayenne, du coup, on peut repartir sur ces grosses compétitions de difficulté et le mur est homologué pour pouvoir organiser des compétitions internationales. Voilà pourquoi on démarre dès ce week-end.
Donc ça veut dire que c'est parce qu'il est grand, il y a le parcours qui fait qu'il y a des difficultés particulières.
Alors on est dans une discipline un peu particulière. Les parcours, ils sont créés, à chaque fois ils sont neufs et à chaque tour de compétition, c'est des nouveaux parcours. Hein, c'est vrai que l'escalade de compétition nécessite de refaire très souvent hein, ce que nous on appelle les voies, hein, les parcours. Entre chaque tour, c'est refait. Donc il y a une équipe de très haut niveau, hein, de grimpeurs de très haut niveau qui sont quasiment enfermés dans la salle depuis samedi soir là et qui travaillent d'arrache-pied pour créer l'ensemble des parcours du week-end sur lequel les grimpeurs vont pouvoir s'exprimer vendredi pour des qualifications, samedi matin des demi-finales, dimanche les finales de difficulté. Ça, chaque parcours est à chaque fois nouveau pour les compétitions. Non, l'homologation c'est la dimension du mur, hein. C'est-à-dire que on a un grand mur, alors les standards du mur international c'est minimum 15 mètres de haut et nous on a la chance d'avoir celui-ci qui fait un peu plus de 16 mètres 50 de haut, donc on a vraiment de quoi s'exprimer sur un grand mur. Et puis pareil sur ce qu'on appelle les profils, c'est-à-dire que le mur a plusieurs inclinaisons différentes et notamment des inclinaisons qui penchent énormément pour pouvoir faire ses voies de haut niveau. Et donc ce mur-là, il remplit les conditions et donc voilà pourquoi il a l'homologation internationale. C'est un très grand mur, hein. 16,70 m, 54 mètres de large, ça fait quand même une grosse bête. Ouais.
Oui, ça doit être assez impressionnant. Les spectateurs d'ailleurs pourront le voir ce week-end. Justement, vous avez évoqué un petit peu le programme de ce week-end. Ça commence donc dès vendredi avec les compétitions, les qualifications en difficulté. Déjà peut-être repréciser ce que c'est que les compétitions en difficulté en escalade.
Oui, alors on a trois disciplines en compétition en escalade. Ça reste toujours de l'escalade, hein, mais c'est trois disciplines différentes. Si je peux faire une comparaison, l'athlétisme c'est une discipline et puis dedans on fait du saut, de la course et du lancer. Alors ben, chez nous, voilà, on fait de l'escalade et puis dedans on fait du bloc, de la vitesse ou de la difficulté. La difficulté et la vitesse qu'on organise ce week-end à Laval, c'est la difficulté des parcours hauts et longs, où le compétiteur est encordé, il est attaché à une corde, il est assuré par un partenaire et il va devoir progresser tout le long de la voie jusqu'à temps d'arriver le plus haut possible. Et celui qui arrive tout en haut, ben, il est qualifié pour le tour d'après. Et puis si c'est en finale, s'il arrive tout en haut, ben, c'est celui qui aura gagné. c'est ça le but du jeu. Absolument, c'est assez facile à comprendre. Donc ça, c'est pour la compétition de difficulté. La compétition de vitesse, alors là, par contre, c'est la seule particularité, c'est que le parcours ne change jamais. C'est toujours le même, tout le temps, partout dans le monde. c'est le même parcours et tous les athlètes à travers le monde s'entraînent sur le même parcours, de façon à pouvoir établir des records. On a la chance d'avoir l'équipement de vitesse ici à Laval, donc c'est le seul pour tout le Grand Ouest, hein, il n'y en a pas d'autres, homologué à l'international. Et du coup, là, c'est deux compétiteurs sur deux couloirs parallèles qui partent exactement en même temps et doivent arriver le plus vite possible en haut. Le premier qui arrive en haut a gagné, avec des chronos qui s'affolent, hein, parce que 15 mètres de haut sur des chronos mondiaux qui vont
autour de
5 secondes, c'est hallucinant la vitesse à laquelle... C'est un vrai sprint vertical. Et ça forcément, ça met de l'ambiance, forcément, ça fait le show, hein, pour la vitesse. Et puis, alors, la compétition de bloc, bah, c'est ce qu'on a beaucoup fait, là, parce qu'on avait les infrastructures qui nous le permettaient. Ça, c'est sur des petites structures qui font 5,50 m de haut. Le compétiteur n'est pas attaché. La sécurité est assurée par des gros tapis qui sont au sol, un peu comme des tapis de saut en hauteur. Et donc, le compétiteur, ben, s'il rate, parce qu'évidemment, il va faire plusieurs essais, quand il rate, il remet les fesses dans le tapis, puis il recommence jusqu'à temps qu'il réussisse le parcours. Et là, c'est une succession de parcours dans des blocs différents qui font le format de la compétition.
Et donc, ce week-end, en tout cas, ce sera bien la difficulté que vous pourrez voir donc vendredi et samedi, et la vitesse dimanche, en tout cas des disciplines assez spectaculaires, vous l'avez compris. La vitesse, on l'a dit, j'imagine que ça permet aussi d'avoir des comparaisons, si c'est à chaque fois le même parcours.
C'est bien ça, oui, tout à fait, ça permet d'établir des records, et ça permet d'avoir effectivement des athlètes qui peuvent s'entraîner partout dans le monde sur cette même voie de référence, et c'est toujours le même parcours, donc ils s'entraînent toute l'année dessus.
Donc là, c'est aussi la première compétition européenne depuis, j'imagine, un certain temps, avec, on le sait, la crise sanitaire. Qui sera présent, justement, qui auront la chance de voir les spectateurs lors de ce week-end?
Alors, il y a 11 délégations, hein, qui ont répondu. Ça veut dire 11 équipes nationales qui ont été sélectionnées chacun dans leur pays pour pouvoir venir participer à la Coupe d'Europe. Un petit peu moins que ce qu'on aurait espéré. Alors, je pense que là, la crise sanitaire ne doit pas y être pour rien, hein, parce qu'il y a des délégations qui n'ont pas pu se déplacer. Donc, bon, ça nous fait des athlètes un petit peu en moins. En même temps, ça ouvre la porte pour les autres, donc après tout, ils ne seront sûrement pas mécontents de ne pas forcément avoir toutes les délégations présentes. Pour nous, organisateurs, ben, ça fait un petit peu moins de compétiteurs. De toute façon, ça fera toujours une belle compétition, ça sera toujours du sport de très haut niveau, donc ça ne change pas non plus complètement la donnée du jeu. Alors c'est sûr qu'on est en reprise, là, puisque le côté un petit peu amusant de l'affaire, c'est qu'en Mayenne, on avait, juste avant la fermeture, les confinements et autres soucis de la crise sanitaire, organisé le championnat de France de bloc senior à la Baconnière. C'était début mars 2019, et puis bah, depuis, tout est un peu arrêté, et on reprend là cette année avec la belle Coupe d'Europe. Évidemment, il y a eu un espace-temps qui s'est compressé entre les deux, là où on n'a pas pu faire d'événements, pas de compétition, mais on sort presque d'un beau championnat de France senior, et puis là, on va enchaîner sur une belle Coupe d'Europe.
Une Coupe d'Europe, oui, donc pas mal pour la reprise, en tout cas. Peut-être des favoris, peut-être même des noms dans les Français, ou d'autres.
Oui, alors, on a une équipe de France qui est très forte, et ça fait toujours plaisir, hein, bien entendu. Il y a chez les garçons un jeune homme d'une vingtaine d'années là, qui s'appelle Paul Njeff, qui est vraiment très très fort, qui a un très beau palmarès quand il était encore dans les catégories jeunes, donc avant 20 ans. Il est donc passé senior maintenant. Bon, c'est pas parce qu'il est passé senior qu'il n'est pas fort, hein, donc effectivement, c'est un très fort grimpeur. Et puis chez les femmes, il y a une jeune femme qui s'appelle Salomé Romain, qui arrive des championnats du monde qui avaient lieu à fin août, début septembre en Russie, là, et qui était finaliste au championnat du monde, donc c'est aussi une très très forte prétendante au titre là pour ce week-end chez nous. Ouais.
Donc il y aura en tout cas du spectacle, ça c'est sûr, on vous le promet pour ce week-end. Ce sera aussi l'occasion pour justement tous ces grimpeurs et tous ces athlètes de voir un petit peu, de découvrir cet espace Mayenne, puisqu'il a été labellisé centre de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc là pour vous aussi, j'imagine que un autre des enjeux de ce week-end, c'est de montrer un peu ce que vous êtes capable de faire, et puis la structure en elle-même.
Oui, bien sûr. Hein, on démarre là une belle série de compétitions nationales et internationales à l'espace Mayenne, qui a plusieurs objectifs. Évidemment, d'abord de faire un bel événement et de mettre des beaux champions sur un podium, hein, c'est la première chose qu'on attend d'une compétition, mais aussi de faire connaître l'équipement, puisque en préparation de Paris 2024, maintenant qu'on est reconnu CPJ, hein, Centre de Préparation aux Jeux, ça va permettre aux délégations étrangères de pouvoir venir faire des stages de préparation ici en Mayenne avant les derniers réglages nécessaires pour Paris. Alors évidemment, la situation géographique de Laval est intéressante par rapport à Paris, Et le fait d'avoir mis une série de compétitions internationales en amont, ça va faire connaître l'équipement, le mur, et puis l'ensemble de l'infrastructure pour que les entraîneurs et tout le staff des équipes reconnaissent la qualité de l'infrastructure et se disent eh ben voilà un endroit sur lequel je vais pouvoir revenir pour me préparer au JO.
Donc ça, c'est un de nos objectifs. Pour vous derrière, puisque là, c'est vraiment la première compétition de niveau européen, enfin international en tout cas. Il va y avoir, alors en juin, là, on sera sur du championnat de France, pardon, senior, donc ça c'est en juin. Et il y aura d'autres aussi compétitions, alors nationales et internationales à venir, c'est ça ?
C'est bien ça. On a mis une programmation de compétition nationale, internationale, donc jusqu'à Paris 2024, avec quand même en apothéose le championnat d'Europe au printemps 2024, qui sera le qualificatif pour venir chercher son ticket aux Jeux Olympiques. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des athlètes continentaux viendront se battre à la balle, se battre en tout honneur, hein, mais viendront chercher un ticket pour Paris 2024. C'est ce que les sportifs appellent le TQO, hein, le tournoi de qualification olympique, sauf que là, il est sur les championnats d'Europe. Donc, on organise le championnat d'Europe et en plus, les tickets à Paris seront à prendre lors de cette compétition-là. Oui.
Donc là, ce sera printemps 2024. Donc effectivement, pour les spectateurs, il y a largement le temps de voir venir. En tout cas, la billetterie pour ce week-end est toujours ouverte. J'imagine qu'on peut avoir ses places.
Absolument, on peut encore prendre ses places. Les places sont soit en pré-vente, bien entendu, soit sur place pour ceux qui ne l'auraient pas fait en pré-vente. Et il y a encore des places. Oui, pas de souci. On peut accueillir 1500 personnes. Donc l'aréna est quand même faite pour. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est l'une des plus belles arénas de France actuellement pour pouvoir voir de l'escalade dans des bonnes conditions. Donc il y a encore de la place. Donc on peut toujours rejoindre l'espace Mayenne ce week-end sans problème. Sachant que vendredi, c'est gratuit, donc on peut venir voir à quoi ça ressemble l'escalade, voir l'équipement et voir des beaux sportifs s'exprimer sur un beau mur. Et puis après, des demi-finales donc samedi matin et des finales de difficulté samedi soir. Et c'est dimanche qui sera consacré à la vitesse.
Très bien. Et sachant qu'on le répète, c'est assez quand même accessible, même si on n'a jamais vu d'escalade de sa vie, on va comprendre assez vite comment ça fonctionne. Et...
Ah, c'est assez facile, effectivement. Ouais, alors le spécialiste de la discipline, il va être complètement immergé dedans, il va comprendre ce qui se passe, évidemment, parce que c'est sa discipline. Mais le néophyte comprend très bien, parce que c'est assez facile de voir qui monte le plus haut, qui passe d'un tour à l'autre. Donc ça, c'est pas compliqué à comprendre. En plus, on a à la fois un speaker qui est le speaker officiel des Jeux Olympiques quand même, qui sera présent ce week-end. Et on a également un consultant technique qui est quelqu'un de très très haut niveau et qui va donner les informations techniques aux spectateurs qui permet de comprendre très très facilement ce qu'il est en train de se faire, qu'est-ce qu'est en train de réaliser le compétiteur, pourquoi il passe par là, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc c'est vraiment facile à suivre. Et on se prend très très vite au jeu là, parce qu'on les encourage, on veut qu'ils montent plus haut, on veut pas qu'ils s'arrêtent tout de suite, donc il y a une ambiance de folie quand même. Hein.
Donc vous savez à quoi vous attendre en tout cas ce week-end. Juste un petit mot peut-être sur l'organisation, puisque là on est mercredi, donc forcément j'imagine que vous êtes en plein dedans. Qu'est-ce que ça représente? Ça fait donc, vous disiez depuis samedi, quasiment une semaine que vous êtes dessus. Il y aura des bénévoles aussi, j'imagine, ce week-end.
Alors oui, c'est toujours des compétitions qui nécessitent une grosse cohorte de gens, que ce soit des professionnels, hein, puisqu'il faut créer des parcours. Hein, donc il y a des professionnels qui créent les parcours, les professionnels de la Fédération nationale et internationale, hein, qui viennent pour le côté sportif. Et puis nous, sur place, il y a une grosse équipe, hein, des gens des clubs du département, puisque ça représente quand même 120 personnes, hein, qui vont œuvrer vendredi, samedi et dimanche pour que tout se déroule au mieux. Donc c'est des juges, c'est des assureurs, c'est des gens qui vont placer le public, c'est des gens qui les nourrissent. Enfin bref, c'est une grosse équipe, hein, qui permet de faire cette manifestation-là. Ouais.
Donc qui est à pied d'œuvre en tout cas dès maintenant et surtout évidemment le temps fort ce week-end. Peut-être juste là encore aussi vraiment sur des infos pratiques, les horaires de ce week-end si
oui,
on veut venir.
Oui bien sûr, alors vendredi ce sont donc les qualifications de la difficulté, les qualifications se déroulent de 14h à 18h vendredi, donc toute l'après-midi, hein, 14-18h. Puis après, les demi-finales samedi matin de 9h à 12h30, que je ne dise pas de bêtises. Ça, c'est pour les demi-finales de difficulté. Et samedi soir, les finales commencent à 20h, donc il vaut mieux arriver avant, parce que là, quand même, il y aura du monde, bien sûr. Et 20h et à 22h30, on fait les podiums. Donc voilà, une belle soirée de compétition samedi soir. Et pour dimanche, des qualifications qualification de la vitesse le dimanche matin à partir de 10h et la finale de la vitesse à partir de 14h.
Donc là, je pense qu'on a tout dit. Vous avez toutes les infos et aucune excuse pour ne pas vous rendre ce week-end à la Coupe d'Europe d'escalade. Merci beaucoup Bernard Chailloux d'avoir été avec nous pour présenter ce très bel événement d'escalade. Évidemment, on rappelle, vous êtes donc le conseiller technique du comité d'escalade de la Mayenne. Merci.
Ben merci à vous.
Évidemment, donc là, on peut retrouver aussi toutes les infos, je pense, sur la billetterie de l'espace Mayenne. Si vous avez envie de peut-être revenir sur quelques détails qu'on n'aurait pas abordés ou que vous n'avez pas eu le temps de noter, cette émission sera aussi évidemment en podcast cet après-midi sur notre site l'autreradio.fr. Et puis, je vous propose de faire une petite pause en musique avec Papouze, Anna Wants to Dance. On va écouter tout de suite. C'était Papouze, Anna Wants to Dance dans l'agité du local sur l'autre radio. Mercredi, et un mercredi sur deux, vous le savez, il y a la chronique du FC Que Choisir en Mayenne. Aujourd'hui, pile dans l'actualité, puisqu'on parle des hausses continues du prix de l'essence, mais aussi du gaz et de l'électricité. Je vous laisse écouter. Bonjour Jean-Michel Guinaudot, le président de l'UFC Que Choisir de la Mayenne. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un sujet, disons, brûlant.
Eh oui, l'hiver arrive. Et voici la mauvaise surprise de cette rentrée. Le prix de l'énergie, que ce soit l'électricité, le gaz ou le carburant, atteint des sommets himalayens.
Mais avant de se quitter, fin juin, vous nous annonciez le lancement par l'UFC Que Choisir d'une campagne d'inscription pour obtenir des prix du gaz et de l'électricité moins chers.
Et avec un contrat rédigé par nos juristes, sans risque pour le consommateur. Et l'échéance était fixée au 21 septembre. Mais nous avons dû reporter cette échéance le 10 septembre, car les quelques fournisseurs qui avaient fait une proposition venaient de la retirer, et les propositions restantes ne répondaient tout simplement pas au cahier des charges. Une nouvelle date a été fixée au 31 janvier, dans l'espoir d'un marché un peu calmé.
Que s'est-il passé ?
Au milieu des années 2020, l'activité économique ayant été mise à l'arrêt pour cause de Covid-19, le prix du baril de pétrole était devenu négatif. Toutes les capacités de stockage étant saturées, y compris le stockage en tankers, lesquels faisaient des ronds dans l'eau en attendant d'être déchargés. Et puis, l'activité a repris et cherche à récupérer son retard. Non seulement l'énergie a retrouvé rapidement son prix d'avant-crise, mais la spéculation s'en mêle et l'incertitude est totale. Pour le consommateur, dont le revenu n'a pas évolué en conséquence, c'est son pouvoir d'achat qui est amputé d'autant.
Vous pouvez nous donner quelques exemples ?
Écoutez, voici le résultat de quelques calculs. 15 centimes sur un plein de 40 litres de gasoil, c'est 6 euros de plus. Et pour deux pleins par mois, c'est plus de 125 euros par an. 10 euros pour 100 litres de fuel domestique, c'est entre 300 et 500 euros de plus pour l'hiver. 4 centimes sur le prix du kilowattheure, gaz ou électricité, c'est plus de 500 euros par an pour une consommation annuelle totale de 12 500 kWh.
Mais ces chiffres sont effrayants.
Eh oui, et sans rapide changement, la note va être salée. L'État a majoré le chèque énergie de 100 euros pour ceux qui ont droit. Pas suffisant, semble-t-il, si l'on veut ne pas grelotter cet hiver. Et l'avez-vous remarqué ? Sur votre facture apparaissent des taxes dont les abréviations sont aussi illisibles qu'incompréhensibles, sans parler de leur mode de calcul, établi par des matheux de haut vol. Enfin, passons. Mais surtout, pourquoi ces taxes sont-elles assujetties à la TVA ? Ce qui signifie « taxe à la valeur ajoutée ». Et quelle est la valeur ajoutée d'une taxe ? C'est pourquoi depuis longtemps, l'UFC Que Choisir demande la suppression de la TVA sur les taxes et une pétition est à signer en ligne sur le site quechoisir.org.
Mais quel conseil pouvez-vous donner aux consommateurs ?
Alors, si vous êtes encore chez EDF ou chez Engie au tarif réglementé, changez de fournisseur. Si vous avez un contrat à prix fixe, gardez-le jusqu'à son échéance. Il est sûrement plus intéressant que les nouveaux contrats actuels. Et s'il arrive à échéance, consultez les comparateurs de l'UFC Que Choisir qui vous donnent directement le coût annuel de chaque proposition. Et n'oubliez pas que vous pouvez changer de fournisseur à tout moment. Il suffit de souscrire un nouveau contrat avec un nouveau fournisseur qui doit se charger des démarches vis-à-vis de votre ancien fournisseur. En attendant, en espérant une conjoncture plus favorable le plus rapidement possible...
Pouvez-vous nous rappeler les coordonnées de votre association ?
Et c'est l'UFC Que Choisir de la Mayenne au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufckechoisir.fr et notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous.
Merci Jean-Michel Guinaudeau. Une nouvelle chronique sera à réécouter d'ici 2 semaines. Et en attendant, celle-ci sera en podcast sur notre site l'autreradio.fr. On poursuit notre feuilleton dans les coulisses du spectacle La Conférence des Oiseaux en répétition au Théâtre du Tiroir à Laval. À l'initiative de ce projet, vous le savez, c'est le directeur de ce théâtre, Jean-Luc Bansard. Un projet qui a commencé en juin prochain. Il réunit une trentaine d'acteurs issus de plus de 11 pays différents, ou pas forcément 11 pays, mais en tout cas 11 langues sont représentées dans ce spectacle. On en a parlé hier, c'est très important pour l'apprentissage du français, mais aussi pour l'intégration de chacun. Et c'est aussi ce que nous raconte aujourd'hui Félicité entre deux jeux et deux bouts de répétition.
Ils entendirent le chant du rossignol. Ce chant renferme un monde de secrets.
Le rossignol chantait les secrets du mystère. Il fermait le bec aux autres oiseaux.
Je m'appelle énormément Félicité Josiane, épouse Caron. Le 27 de ce mois, ça fera un an que je suis ici en France parce que je suis venue rejoindre mon conjoint qui, lui, il est français. Je suis venue avec ma fille que j'ai eu au Cameroun. Moi, je suis camerounaise. C'est grâce à ma fille que j'ai entendu parler de ce projet. Il se trouve que ma fille, elle a participé au concours de l'éloquence de la Mayenne et elle a obtenu le premier prix. Elle sait depuis toujours que je voudrais faire du théâtre. Et elle s'est fait aider par Jean-Luc. Et comme ça, elle m'a dit, j'ai quelqu'un, maman, qui peut t'aider. Comme ça, elle m'a présenté à Jean-Luc. Nous avons échangé. Et je lui ai dit, depuis que je suis ici en France, c'est vrai, je suis arrivée à la période Covid. Mauvaise période, entre guillemets. Je reste enfermée, contrairement à chez moi au Cameroun, où il y a plus de contacts entre les gens, entre les humains. Ça me manquait. Et ici, dans ce théâtre, j'ai trouvé cela. Le mois de juillet, donc, j'ai eu à faire la rencontre de Jean-Luc. Alors, il m'a présenté aux autres acteurs. Et là, j'ai retrouvé la chaleur humaine que je recherchais. On mange ensemble, on cause. Ça m'a apporté en plus, quoi. J'étais un peu crispée. Mais j'avoue que depuis que je viens ici dans ce théâtre, j'ai retrouvé la joie de vivre de chez moi au Cameroun. Et ça me fait du bien. Il fait beau vivre ici. On s'échange entre nous. On se donne des idées. On se soutient, et on se resserre et ça me fait du bien.
Et demain, vous pourrez entendre d'autres témoignages de participants, tout aussi poignants, mais forcément différents, puisqu'ils sont donc plus d'une trentaine, non pas à avoir témoigné à notre micro, mais en tout cas à participer à ce beau projet pour le spectacle La Conférence des Oiseaux. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local. À suivre sur notre antenne à 19h, il y aura Novorama, suivi à 21h de Chaosphère, avec aujourd'hui, là encore, on va passer dans différents styles de musique, du sludge suédois, la musique indépendante des States, en passant par la noise canadienne et le death electro de Monaco. Je vous laisse découvrir ça, ça se sera donc à 21h ce soir sur l'autre radio. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain à 12h15.